Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 12 octobre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le journal de la semaine en France et un petit détour à Adélaïde avec les événements à venir à l'Alliance française. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce mardi 12 octobre. La Nouvelle-Galles du Sud annonce de nouvelles mesures de soutien aux entreprises pour la relance économique de l'État. Le Victoria enregistre plus de 1400 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi. L'Allemagne est devenue le premier pays à se qualifier pour la Coupe du monde de foot de 2022. Le Victoria a enregistré ce mardi 1466 nouvelles infections au Covid-19 et 8 décès, marquant le deuxième jour consécutif où le nombre de cas quotidiens dans l'État a diminué. Le département de la santé a confirmé qu'il y avait 19 627 cas actifs dans l'État après 68 509 tests effectués hier. Plus de 36 000 habitants du Victoria ont été vaccinés hier lundi dans des centres gérés par l'État. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, appelle les personnes qui peuvent faire leur deuxième vaccin à le faire dès que possible.
We want to get to the 70 number as fast as we can. So anyone out there who's got a second dose appointment booked outside the 26th of October, that can be brought forward, I'd encourage them to bring it forward. And in fact, we're on the phones to those people and we're literally ringing them saying, there's an appointment, please go and book, please be part of the 70%. If we get there earlier, what a fantastic problem for us to have.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 360 nouveaux cas de Covid-19, acquis jusqu'à 20h hier soir. L'État a également enregistré 5 décès. Le taux de vaccination se situe à 90% pour la première dose chez les personnes de plus de 16 ans, tandis que 74% des plus de 16 ans ont reçu 2 doses d'un vaccin Covid-19. Le chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrotté, et le trésorier Matt Keane ont annoncé les détails d'un plan de relance de l'économie après que le Grand Sydney soit sorti de plus de 100 jours de verrouillage. Les mesures comprennent 20 000 $ pour les denrées alimentaires périssables si les entreprises sont confrontées à un futur lockdown. Dominique Perrotté espère que cette mesure apportera un certain soutien aux entreprises pour qu'elles investissent pendant les mois précédant Noël.
As the JobSaver program finishes in November, we want to continue to give businesses the confidence to invest. We want businesses to look forward to what is going to be a bright summer here in New South Wales.
Les habitants de Leigh City sortiront du verrouillage ce jeudi à 23h59 après avoir atteint une couverture vaccinale de 72%. Les rassemblements en plein air passeront à 25 personnes. 5 personnes pourront visiter une autre famille chez elles et 50 clients pourront utiliser les espaces extérieurs des restaurants et des pubs. Le chef de Leigh City, Andrew Barr, rappelle à celles et ceux sur le territoire que le nombre de cas devrait augmenter à mesure que les restrictions s'assouplissent, mais la vaccination offre une protection efficace. Il déclare aussi que les résidents devraient continuer à faire preuve de prudence pour assurer la sécurité de leurs proches.
So with further easing of restrictions this Friday, we ask that you continue to be careful. Keep wearing your masks indoors, keep checking into venues, keep washing your hands, doing all of the things that we've been doing for 18 months now to keep COVID safe.
La protection de la santé mentale des enfants de moins de 12 ans et la prévention des maladies font partie d'une nouvelle stratégie nationale annoncée par le gouvernement fédéral. La directrice générale de la Commission nationale de la santé mentale, Christine Morgan, souhaite que les parents soient équipés pour détecter les premiers signes de détresse mentale chez les enfants. Bien que la moitié de tous les problèmes de santé mentale des adultes apparaissent avant l'âge de 14 ans, le manque d'aide professionnelle pour les enfants de moins de 12 ans suscite des inquiétudes. Madame Morgan déclare que la stratégie consiste à donner la priorité aux enfants.
But this is a strategy that looks at the rights of a child, that looks at the right of any young person to be raised in a way which helps them not just survive but truly thrive. So it's with enormous pride that the Commission, along with everyone else who's contributed to this today, is able to say we now have in Australia a national children's mental health and wellbeing strategy.
L'Organisation mondiale de la santé a recommandé que les personnes immunodéprimées reçoivent une dose supplémentaire de vaccin COVID-19. L'OMS déclare que la dose supplémentaire devrait être offerte car la réponse immunitaire à la vaccination pour ces personnes est susceptible d'être moins forte, de sorte qu'elles courent un risque plus sévère de maladie COVID-19. C'est ce que déclare Alejandro Craviato, le président du groupe consultatif stratégique de l'OMS.
For the severely or moderately immunocompromised persons, SAGE recommended that they should be offered an additional dose of all of the WHO EUL COVID-19 vaccines that have been approved.
Les médecins et les midwives du Royaume-Uni exhortent les femmes enceintes à se faire vacciner. De nouveaux chiffres du National Health Service du Royaume-Uni révèlent que près de 20% des personnes gravement malades avec le COVID-19 sont des femmes enceintes non vaccinées. Dr Jo Mountfield, vice-présidente du Collège royal des obstétriciens et des gynécologues, a déclaré que le vaccin ne semble pas augmenter le risque de complications à aucun stade de la grossesse.
You can have the vaccine at any stage during pregnancy. We've got increasing amount of data that tells us that it does not increase the risk of miscarriage, it does not increase the risk of stillbirth, and it does not increase the risk of prematurity.
Au Liban maintenant, avec le chemin de retour pour les écoliers après presque 2 ans de cours en ligne avec les restrictions sanitaires du COVID-19. Reportage Paul Halifé pour Radio France Internationale.
Près de 400 000 élèves prennent ce lundi le chemin de l'école publique pour 4 jours de cours en présentiel et une seule journée en ligne. Cette rentrée scolaire a lieu cette année dans un contexte de crise sans précédent qui a déstructuré tous les aspects de la vie quotidienne au Liban. La rentrée avait été reportée de 2 semaines pour tenter de trouver des solutions aux nombreux problèmes auxquels le secteur de l'éducation est confronté. Avec des salaires qui plafonnent autour de l'équivalent de $150, alors que les 20 litres d'essence coûtent $12, les enseignants avaient menacé de boycotter la rentrée. L'explosion des prix des carburants affecte le transport scolaire. Les pénuries de mazout et les coupures d'électricité et d'Internet perturbent le fonctionnement des établissements scolaires, aussi bien dans les villes que dans les régions rurales. Incapables de gérer la situation, les autorités libanaises se sont tournées vers les donateurs et les Nations Unies qui ont promis une aide de $70 millions pour les écoles publiques. 122 établissements ont en outre été équipés en panneaux solaires pour pallier les pénuries de carburant et 80 autres suivront prochainement. Les manuels scolaires seront offerts gratuitement pour tous les cycles et des allocations de transport seront accordées aux membres du corps enseignant.
Le prince Charles a exprimé sa surprise que le premier ministre australien, Scott Morrison, ne se soit pas encore engagé à assister au prochain sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, qui aura lieu du 31 octobre au 12 novembre prochain. Le prince de Galles a été interrogé sur la BBC sur l'action de l'Australie sur le changement climatique avant la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26. Des dirigeants mondiaux, dont Joe Biden, Boris Johnson, la reine et le pape seront présents à l'événement, mais Scott Morrison n'a pas encore dit s'il sera présent. Pour le prince Charles, il est important que tous les dirigeants mondiaux y assistent car le temps presse pour agir contre le changement climatique.
This is a last chance saloon. Because if we don't really take the decisions that are vital now, it's going to be almost impossible to catch up.
Et puis le premier volet de la COP 15 sur la biodiversité s'est ouvert hier en Chine et en virtuel et va durer 5 jours. Écoutez l'analyse de ces enjeux de ce sommet avec Alexandra Rankovitch, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de géopolitique de la biodiversité.
Il faut tout d'abord renouveler les objectifs internationaux que les États se sont donnés pour enrayer l'érosion de la biodiversité. On est là dans la continuité de 2 décennies d'engagements assez forts, mais qui ont peu été suivis d'effets. Il faut poser la suite, poser une série d'objectifs d'action pour les 10 ans qui viennent, et il faut qu'ils soient beaucoup plus précis, quantifiés, qu'on soit moins sur des objectifs incantatoires que chacun peut interpréter comme il veut. Mais ensuite, il faut un bien meilleur cadre de suivi. Un des grands problèmes qu'on a sur la biodiversité, c'est qu'on se donne rendez-vous tous les 10 ans sans en fait d'étape intermédiaire pour continuer de maintenir la pression en fait entre les États et puis de la société civile vis-à-vis des États. Et il faut, en dernier point, que les États s'engagent sur les moyens de mise en œuvre de ces objectifs. Et donc, c'est tout le volet financier qui est en négociation. Il faut que les pays mettent sur la table les moyens pour effectivement engager les transformations économiques qui sont nécessaires et pour la biodiversité et le climat.
Et puis le prix Nobel de l'économie décerné à 3 économistes, tous des universitaires d'Amérique du Nord. Précision de Altine Lazage pour RFI.
Le Canadien David Card, professeur à l'Université de Berkeley en Californie, est connu pour ses travaux sur les effets de l'immigration, de l'éducation et du salaire minimum sur le marché du travail. Il a par exemple étudié les effets de l'immigration cubaine en 1980 quand 125 000 Cubains sont arrivés soudainement en Floride. Il a montré que cet exode n'a pas eu de conséquences sur le chômage, contrairement aux idées reçues. La deuxième moitié du prix est attribuée conjointement à l'américano-israélien Joshua Engrist, enseignant au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, et à l'américano-néerlandais Guido Imbens, enseignant à l'université de Stanford. Ces derniers ont également été récompensés pour leurs travaux sur le marché du travail qui ont permis de tirer des conclusions solides sur les liens de cause à effet. Ils ont par exemple pu conclure qu'une année supplémentaire d'études faisait augmenter en moyenne le salaire de 9%. Ces 3 spécialistes de l'économie expérimentale vont se partager la coquette somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit près d'€1 million.
L'Australie va se doter d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, Bonza, au début de l'année prochaine. Bonza va profiter d'un boom attendu des voyages dans un monde post-pandémique. Bonza, qui est soutenue par une société d'investissement américaine et dirigée par l'ex-cadre de Virgin Blue, Tim Jordan, promet des prix ultra bas pour voyager à travers le pays en 2022. Bonza va cibler les communautés régionales avec de nouvelles routes aériennes prévues. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 21. Hobart, 17. Canberra, 15. Sydney, 19. Brisbane, 21. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce 12 octobre, la Nouvelle-Galles du Sud annonce de nouvelles mesures de soutien aux entreprises pour la relance économique de l'État. Le Victoria enregistre plus de 1400 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on débute ce journal eh bien, avec du football et la super victoire des Bleus. Les Français qui gagnent la Ligue des Nations, Coupe internationale face à l'Espagne. Retour sur ce match avec Antoine Grenier.
Caractère, mentalité, capacité de réaction, hein, surtout comme face à la Belgique en demi-finale, les Bleus, ils se sont retrouvés menés logiquement, hein, tant l'équipe de France était dominée par l'Espagne depuis le retour des vestiaires. Une Espagne jeune, plutôt inexpérimentée, 30 sélections en moyenne, mais les 132 de Sergio Busquets ce soir remontaient un peu la moyenne. Mais une Espagne capable, comme les autres sélections espagnoles avant elle, de bien tenir le ballon. Du côté de la Roja, on pourra regretter une main de Jules Koundé dans la surface non sifflée par l'arbitre. On pourra toujours discuter sur un éventuel hors-jeu de Mbappé sur son but, le deuxième de l'équipe de France, mais ça serait réduire à des polémiques arbitrales, ce qui reste une belle performance espagnole entre la victoire sur l'Italie demain en demi-finale et puis cette défaite sur le fil contre une équipe de France championne du monde, hein, mine de rien. Les Bleus sont bien les vainqueurs de cette Ligue des Nations. Ils succèdent au Portugal avec 3 mois de retard, diront ceux qui voulaient voir les Bleus remporter l'Euro, ceux qui auraient préféré les voir remporter le championnat d'Europe cet été. Mais bon, dans le scénario du match de ce soir, cette équipe de France, elle a su ménager le suspense. Griezmann, pour sa 100e sélection, a surtout brillé par son apport défensif, plus qu'offensif. Mais dans un match indécis, serré, accroché par moments, les Bleus, ils ont su placer les banderilles au moment où il fallait, par Théo Hernandez d'abord à la 64e minute, qui touche la barre juste avant que l'Espagne n'ouvre le score par Oyarzabal sur la contre-attaque de cette action-là. 2 minutes plus tard, c'est Karim Benzema. Allez voir le but de Karim Benzema, une frappe enroulée depuis le côté gauche de la surface qui va se ficher dans la lucarne de Unai Simon. Ça, c'était sur une passe de Griezmann. Et puis enfin, à la 80e minute, ce but de Kylian Mbappé, parti dans le dos de la défense, très légèrement hors jeu, mais remis en jeu par Aymeric Laporte qui touche le ballon. Il vient battre Unai Simon en 1 contre 1, Kylian Mbappé, et offrir la victoire à l'équipe de France. 2-1, les Français repartent de là, repartent donc de Milan avec la Ligue des Nations et petite certitude, notamment la connexion Mbappé-Benzema.
Antoine Grenier, alors on l'aura compris, la victoire des Bleus, eh bien c'est aussi la victoire de Karim Benzema. Le retour du joueur, longtemps nommé comme joueur prodige, mais également banni de l'équipe de France. On écoute la réaction de Karim Benzema.
Ah oui, sur un plan collectif et sur un plan personnel. Donc j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est fait. C'est un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte. Là, jamais rien, et aujourd'hui, on l'a encore prouvé. Je pense que c'est le signe des grandes équipes, surtout. Ne pas paniquer, patienter, attendre le bon moment, et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin du match, et on a réussi à mettre ces 2 buts. Bon, déjà, je vais profiter de celui-là, et après, petit à petit, bien préparer se qualifier pour la Coupe du Monde, et aller la chercher.
Allez, une autre réaction, celle de l'entraîneur, le sélectionneur français, champion du monde, bien entendu, Didier Deschamps.
On a retrouvé une des 20 premières minutes où l'équipe de France avait le ballon, et puis après on a trop souffert, on a trop reculé. Certes, on a été mené, mais que d'un but. On est assez vite revenu, donc en modifiant un petit peu, en à la mi-temps, en faisant en sorte d'aller les chercher un peu plus, quitte à prendre plus de risques et rester notamment avec nos 3 défenseurs centraux 1 contre 1. Voilà, ça nous a permis d'avoir plus de récupération haute, d'avoir de créer plus de danger aussi. Cette équipe d'Espagne, peu importe les joueurs qui sont, a toujours cette capacité à monopoliser le ballon. Elle nous a fait souffrir. Évidemment dans la deuxième partie, surtout de la première mi-temps, je le répète. Après, en y mettant plus d'agressivité, on leur a fait commettre des erreurs aussi. Donc la qualité, il y en a dans l'équipe de France, mais il y a toujours cet état d'esprit et ce caractère qui est indispensable au haut niveau pour aller chercher une victoire encore et un titre ce soir. Karim est un joueur essentiel. Il a prouvé sur ces 2 matchs-là. Il a une qualité évidente qui saute aux yeux. Il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club, le Real Madrid. Et il a cette rage de vaincre, de gagner. Il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif aux autres joueurs. Donc je suis vraiment heureux pour l'ensemble et personnellement heureux pour lui.
Voilà donc pour le football et on finit ce journal des sports avec de la boxe et le portrait de Tyson Fury par Loïc Piala.
Il y a 18 mois, pour l'acte 2 de la trilogie, Tyson Fury avait fait son entrée sur le ring assis sur un trône, une couronne sur la tête. Cette fois, il a opté pour le centurion romain encadré par des guerriers spartiates tout droit sortis du film 300. Après tout, l'anglais est boxeur, pas professeur d'histoire. Deontay Wilder, lui, a débarqué dans un costume honorant ses racines nigérianes. Un attirail léger pour celui qui avait expliqué sa défaite lors du deuxième combat par un costume trop lourd, mais aussi par les gants soi-disant lestés de son adversaire. En début de combat, l'Américain frappe au corps avec son jab, une technique entrevue dans ses vidéos d'entraînement. Il domine, mais comme lors du deuxième combat, Fury l'envoie au sol à la troisième reprise. On croit alors à une autre victoire facile de l'anglais. Mais... le Gypsy King goûte au tapis dès le round suivant, pas une fois, mais deux. La droite de Deontay Wilder, qui a obtenu 41 de ses 42 victoires par KO, est la plus dévastatrice de l'histoire de la boxe. Mais comme lors du premier combat, l'anglais y résiste et trouve la force de se relever. À partir de ce moment-là, Fury prend le contrôle. Il continue de fatiguer Wilder en s'appuyant sur lui aussi souvent que possible. Il n'est pas entré sur le ring en pesant 125 kilos pour faire du balai, reconnaît l'Américain après le combat. La stratégie fonctionne et Fury touche régulièrement. Mais avec Wilder, un seul coup suffit. Alors Shaquille O'Neal, Magic Johnson et les 15 000 autres spectateurs de la T-Mobile Arena continuent de se ronger les ongles. À la 9e, un médecin vient voir Wilder. À la 10e, l'Américain est à genoux pour la deuxième fois, pris par un coup dans l'oreille. Image terrible, mais le Bronze Bomber, le bombardier de bronze, se relève. Il paraît épuisé, Fury en profite et à la 11e... coincé dans les corps, tenant encore debout sans que personne ne sache comment, Wilder finit par céder. L'arbitre ne prend même pas la peine de compter. Fury à la boxe et le show dans le sang. Fidèle à sa tradition, après sa victoire, il a chanté sur le ring une reprise de Walking in Memphis, devenue Walking in Vegas.
Voilà donc pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
13h27 minutes sur les ondes SBS French. Et dans 36 secondes, je repasse l'antenne à mon collègue Christophe Mallet pour le journal de la semaine en France en compagnie d'Émile Matasso.
En français.
Et comme chaque mardi, il est temps de passer à l'actualité française avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, eh bien, le sommet France-Afrique qui s'est tenu vendredi dernier à Montpellier en France.
Oui, ces sommets France-Afrique se tiennent depuis 50 ans. Hein. Le premier s'est tenu en 1973. Rappelons le contexte de ces sommets avant de parler précisément de celui qui vient de s'achever. Ces sommets, au départ, ils avaient lieu tous les ans en France ou dans une capitale africaine. Des sommets France-Afrique. Afrique, qui pendant longtemps se sont cantonnés à la sphère francophone, les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Depuis les années 90, ces sommets sont espacés tous les deux ans.
et la France fait tout pour les élargir à l'ensemble du continent. Le dernier, avant celui de vendredi à Montpellier, il avait eu lieu à Bamako, la capitale du Mali, en janvier 2017, quand François Hollande était encore président de la République en France. Là, plus de 4 ans ont passé et il s'agissait vendredi du premier sommet du genre pour le président français Emmanuel Macron. Au début de son mandat, il avait eu un discours très fort lors d'un déplacement au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il avait affirmé qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Emmanuel Macron avait clairement voulu signifier aux Africains que le temps de ce que l'on appelle la France-Afrique, l'ingérence, la condescendance de la France envers ses anciennes colonies, que ce temps-là a été révolu. Et bien, 4 ans après, il a présidé, Emmanuel Macron, ce sommet particulier de Montpellier. Nous allons le voir, puisqu'aucun chef d'État africain n'était là.
Alors, pour ce sommet de Montpellier, à défaut des chefs d'État africains, la France avait décidé de faire venir quelques 3000 jeunes, des membres de la diaspora et de la société civile.
Oui, un sommet d'un genre nouveau pour justement essayer de répondre aux critiques émises par la jeunesse africaine, les espoirs déçus. Alors des tables rondes, des ateliers thématiques ont ainsi été organisés à Montpellier avec ces centaines de jeunes représentant l'Afrique qui étaient là. Et 11 jeunes ont même été invités à débattre avec le président français, dans une ambiance, un show un peu à l'américaine, très très animé. Alors, il y a eu quelques échanges savoureux, forcément, et le chef de l'État a été bousculé, Emmanuel Macron, avec des jeunes qui ont pointé du doigt, avec des mots bien plus directs que ce que n'auraient fait des chefs d'État africains, bien le paternalisme de la France, le néocolonialisme, les opérations militaires au Sahel, au Mali notamment, qui ne réglerait rien sur le terrain, puisque les terroristes, les islamistes continuent de progresser, qui ne serait qu'un moyen pour la France de continuer d'exister en Afrique. Les échanges ont été vifs parfois, mais c'était l'idée de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, bien que dans la limite d'un dialogue cordial, respectueux, la parole puisse se libérer. Alors le président français a rappelé que la France, oui, intervenait militairement en Afrique, mais qu'elle ne le faisait qu'à la demande des pays africains. Et il a précisé que la France n'avait pas vocation, je cite, à rester au Mali. Des annonces ont été faites également à l'issue de ce sommet France-Afrique. Un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique va être mis sur pied. Il sera doté de 30 millions d'euros sur 3 ans. Le volet culturel a occupé une grande place dans les échanges également, que la France mette plus en valeur les artistes africains, c'est ce qui est revenu. Paris s'est aussi engagé à accélérer la restitution d'œuvres d'art à leur pays d'origine. Cela concerne notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et dans le débat sur les années de colonisation, ce passif qu'a la France, Emmanuel Macron a refusé une nouvelle fois de dire pardon au nom de la France, il s'en est expliqué. Je ne crois pas, a-t-il dit, à une politique de pardon, mais de reconnaissance. Une politique qui doit mettre en place un processus de mémoire et d'histoire commune, a-t-il dit. Voilà donc pour ce sommet inédit de Montpellier, inédit dans la forme. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de sommet classique avec tous les chefs d'État. Au premier semestre 2022, la France présidera l'Union européenne et Emmanuel Macron envisage d'organiser un grand sommet Europe-Afrique à cette occasion, un sommet qu'il pourrait donc présider.
Et l'actualité en France, c'est aussi Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui a créé son nouveau parti politique.
Oui, Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020. Depuis, il est retourné au Havre, en Normandie, maire du Havre. Et c'est de là, de sa ville, qu'il a présenté samedi son parti Horizon, avec un S. Il parle d'une nouvelle offre politique. Édouard Philippe, homme politique de droite, il était avant de rallier Matignon chez les Républicains. À 6 mois de l'élection présidentielle, On pourrait voir là lancement d'un parti politique, une rampe de lancement pour une candidature. Mais non, à bientôt 51 ans, il les aura fin novembre, Édouard Philippe regarde plus loin, c'est sans doute la présidentielle suivante, celle de 2027, qu'il vise en bon stratège, même s'il se garde bien de le dire. Mais pour 2022, il l'a réaffirmé, ce sont ses mots, mon objectif est qu'Emmanuel Macron soit réélu. Il s'affiche comme quelqu'un de loyal, loyal au président de la République, mais libre. Édouard Philippe qui n'a pas hésité à mettre en garde ceux qui pensent que la réélection d'Emmanuel Macron pour un deuxième mandat est acquise. La réélection d'un président, c'est encore plus difficile que son élection, a-t-il martelé au Havre, ajoutant « Cela passera par un élargissement et pas par un rétrécissement de la base électorale ». La sagesse d'Édouard Philippe, qui est louée par les analystes politique, hein, lui qui a quitté Matignon et son poste de Premier ministre donc en 2020 avec une cote de popularité très élevée, eh bien ces mêmes analystes vous expliquent qu'il veut avoir un coup d'avance. Il soutient Emmanuel Macron pour la présidentielle à venir 2022, mais dans 5 ans, après 2 mandats, le président de la République ne pourra plus se présenter. Et Édouard Philippe, eh bien, se positionne d'ores et déjà pour reprendre ensuite le flambeau. Loyal, mais libre.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu en France pour nous cette semaine.
Merci, merci. À bientôt.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. Vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Raphaël Delaunay qui dirige l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour Raphaël et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous les auditeurs.
Peut-être pour commencer un petit retour en arrière pour nous parler de ce qui s'est passé chez vous avec moins de restrictions sanitaires. C'est une vie un peu plus normale que l'on connaît à Sydney et à Melbourne.
Oui, je dois admettre qu'on a beaucoup de chance en South Australia. On essaye d'en profiter dans la limite, bien sûr, de ce qui nous permet de rester COVID safe pour toutes les personnes qui assistent à nos événements. Le trimestre 3 a été surtout marqué par nos cycles de conférences que l'on continue. Ce trimestre 6 était dédié à la poésie avec John Westuby qui œuvrait pour l'Université d'Adélaïde par le passé et qui a enchanté nos étudiants en les faisant voyager au travers de la poésie et au travers des siècles et de cet art qui en a influencé beaucoup d'autres. On a également mis en place un événement pour les enfants et on a eu d'excellents retours. C'était une chasse au trésor qui faisait écho aux journées du patrimoine qui sont organisées en France tous les ans au mois de septembre. Le principe était un peu une chasse au trésor dans l'Alliance, dans le décor du château de Versailles, avec un certain nombre d'indices à trouver au fur et à mesure et qui ont permis aux enfants, tout en s'amusant, de découvrir aussi un peu une partie de l'histoire de France. Et ça a été apprécié autant par les enfants que par les parents.
D'après ce que je comprends, il y a la possibilité aussi de suivre les cours en ligne chez vous ?
Pas complètement pour le moment. Dans la mesure du possible, on essaie d'avoir les cours en face à face parce que c'est, de ce que l'on a compris en interrogeant les étudiants, vraiment la modalité qu'ils préfèrent. Néanmoins, effectivement, le trimestre 3 a été marqué. Enfin, J'atténue le propos, mais on a eu un petit lockdown à Adélaïde pendant une semaine. Et effectivement, dans ce type de cas, on arrive parfaitement à passer des cours en ligne pour permettre aux étudiants de continuer à rester en contact avec la langue, enfin, à apprendre la langue française, à rester en contact avec leur collègue de classe, qui est un aspect important dans l'apprentissage de la langue, c'est-à-dire de le faire ensemble, à plusieurs, de partager, s'amuser, découvrir ensemble.
Et donc, prochainement, le quatrième trimestre qui va démarrer le lundi 11 octobre, est-ce que vous avez des nouveautés à offrir, par exemple ?
Alors, pour ce trimestre-ci, on va vraiment être dans la continuité de la progression qu'on a proposée aux étudiants, d'un trimestre à l'autre, en les interrogeant sur ce qui leur plaît moins. On cherche des pistes d'amélioration, et notamment sur l'adaptation des rythmes de progression pédagogique pour s'assurer de répondre aux profils et aux attentes de tous. On essaye aussi, dans la mesure du possible, d'inclure des éléments pour se préparer à voyager, mais je pense que ce sont des choses que l'on développera plus en 2022, avec l'espoir effectivement de voir les frontières s'ouvrir au fur et à mesure.
Et d'après ce que je comprends, vous avez pu reprendre un petit peu les activités culturelles chez vous. On va en parler avec d'abord cette conférence du docteur Romain Fati qui vient régulièrement sur les ondes de SBS French, je dois signaler.
Oui, en effet, je crois qu'il est intervenu régulièrement. Romain avait fait un premier cycle de conférences sur l'histoire de France au trimestre 2 et revient ce trimestre-ci autour de la Révolution française. Il nous apprendra énormément de choses que l'on ne sait pas toujours, notamment que la date du 14 juillet n'aura pas toujours été la date de fête nationale française. Et il reste toujours un doute aujourd'hui sur le fait de parler de la date de 1789 ou 1790. Ce sont des choses qui seront développées, expliquées par Romain, toujours avec un ton un peu d'humour, pour rendre l'apprentissage de l'histoire et la découverte de l'histoire française amusante et intéressante.
Et ensuite, le vendredi, je crois que c'est le 22, il y a un book launch, The Grateful Dead. C'est pas de la musique, c'est pas ce groupe mythique des États-Unis ?
Non, effectivement, ce sera animé par Stéphane Mueke, qui est en fait essentiellement un traducteur. Et ce qui nous a intéressé dans la préparation de cet atelier avec lui, c'était de s'intéresser à l'art de la traduction. Il animera notamment cet atelier en le ponctuant de différents exercices pour donner à voir ce qu'est l'exercice de traduction et la richesse que peuvent recouvrir chacune des langues, les mots utilisés, les sens qu'ils peuvent recouvrir et la façon de les manipuler d'une langue à l'autre.
Et d'après ce que je comprends aussi, le club de lecture, le ciné-club sont revenus à l'affiche.
Oui, sont effectivement parmi nos rendez-vous réguliers. On a tous les mercredis nos fameux déjeuners conversations qui sont gratuits pour tous nos membres et qui permettent de regrouper des personnes de tout âge, tout horizon. J'avoue qu'il y a toujours un grand plaisir à voir la diversité des personnes qui se réunissent et qui partagent le plaisir de pouvoir échanger librement en français sur tout type de sujets, l'actualité, leurs vacances, etc. Le club de lecture, qui est un de nos rendez-vous réguliers animés par notre merveilleuse Laureline, qui tous les mois regroupe des passionnés de lecture et vont pouvoir échanger sur leur lecture du mois passé. Parmi nos rendez-vous réguliers, on a également le ciné-club qui a lieu une fois par trimestre. Ce trimestre-ci, ça va être les yeux sans visage, qui est un choix particulier, plutôt catégorisé dans les films d'horreur, qui fait un peu écho évidemment à Halloween, mais qui est un film particulier dans l'histoire du cinéma français et qui sera introduit par nos deux passionnés de cinéma, que sont Arnaud et Justine. Nous prévoyons également d'avoir une grande quiz night avec l'association Adélaïde Accueil. On espère pouvoir avoir une centaine de personnes, tout ça est soumis aux dates de restriction, pour pouvoir échanger sur la culture française, en français et en anglais, avec énormément de lots à gagner. Il reste très peu de place, donc je vous invite à réserver assez rapidement. Et ce trimestre-ci va évidemment résonner avec les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit bulle. Bulle pour célébrer ça. Et donc, on va organiser un atelier dégustation autour du champagne qui aura lieu le 3 décembre. Pareil, celui-ci se remplit vraiment très vite et il reste quelques places. Mais vous êtes les bienvenus pour échanger avec notre sommelier et apprendre les différences et la richesse du champagne.
Autre message peut-être à lancer, Raphaël ?
Alors, ce trimestre-ci est un peu particulier. On a malheureusement et vraiment le cœur fendu de prendre la décision de reporter notre French Market à l'année prochaine. Je pense que tout le monde le comprendra dans le contexte actuel et toutes les précautions que l'on prend pour préserver la santé de tous au regard de la propagation du virus. Néanmoins, on maintient notre raffle, notre loterie de fin d'année, avec notamment en premier prix une nuit pour deux dans un nouveau lieu qui s'appelle Le Mât, dans la Barossa-Vallée, qui est un hôtel de luxe inspiré des mâts provençaux que vous pouvez trouver dans le sud de la France avec une cuisine française et plein d'autres lots vraiment super que je vous invite à découvrir sur le site internet de l'Alliance française.
Eh bien, toujours un plaisir de vous avoir, Raphaël, sur les ondes de SBS French. Et à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et enfin, l'émission un rappel des grands titres de ce 12 octobre. La Nouvelle-Galles du Sud annonce de nouvelles mesures de soutien aux entreprises pour la relance économique de l'État. Le Victoria enregistre plus de 1400 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi. L'Allemagne est devenue le premier pays à se qualifier pour la Coupe du monde de foot de 2022. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle fin d'après-midi, belle journée et à très bientôt. Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.